VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du 3 décembre 2015. Au sommaire ce soir.
16 morts, dont 2 assaillants, c'est le bilan d'une fusillade hier soir en Californie. Fusillade condamnée par le président Obama.
À ce stade, nous ne savons pas encore pourquoi ce terrible événement a eu lieu.
Une enquête est en cours pour déterminer les motifs de l'attaque.
Au Soudan, 27 musulmans sont jugés par un tribunal de Khartoum pour apostasie.
Conférence sur la sécurité. Le secrétaire d'État John Kerry prévient que la guerre contre les djihadistes ne sera pas gagnée sans une contribution militaire au sol des pays arabes.
Corruption au sommet du football mondial. La saga continue. Aujourd'hui, 2 hauts responsables de la FIFA ont été interpellés à Zurich.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et d'autres nouvelles sportives.
Mais d'abord, le journal.
L'enquête se poursuit à San Bernardino, en Californie, où 2 assaillants ont ouvert le feu dans une salle de conférence d'un centre de soins pour handicapés mercredi soir, faisant plusieurs morts et blessés. Les derniers éléments sur cette tragédie avec Isha Sarai.
Le bilan de l'attaque est de 14 morts et 17 blessés, dont 2 grièvement. Les suspects, Syed Farouk et Tashfin Malik, ont été abattus hier par la police. Farouk, un Américain de 28 ans, travaillait dans le service de santé de la ville. Sa conjointe, Tashfin Malik, l'a accompagné. Les 2 sont parents d'une fille de 6 mois qu'ils ont laissée chez sa grand-mère. Le président Obama s'est exprimé ce jeudi sur la tragédie de San Bernardino.
À ce stade, nous ne savons pas encore pourquoi ce terrible événement a eu lieu. Ce dont je peux assurer le peuple américain, c'est que nous irons jusqu'au fond. Nous demeurerons comme d'habitude vigilants et rassemblerons tous les faits avant de dire de manière décisive comment cela est arrivé.
Les 2 suspects étaient habillés en tenue paramilitaire comme s'ils étaient en mission, selon la police. Ils ont aussi laissé sur place des engins explosifs. Le domicile présumé des assaillants est passé au peigne fin. Un véhicule suspect est également examiné. La fusillade de San Bernardino est la pire tuerie aux États-Unis depuis l'attaque de l'école primaire Sandy Hook en 2012, dans laquelle 26 personnes avaient été tuées.
Merci Isha Sarai. 27 musulmans soudanais sont jugés par un tribunal de Khartoum pour apostasie. Ils risquent la peine de mort. Idriss Fall.
Les 27 hommes sont accusés d'avoir pris le Coran comme seule référence religieuse et d'avoir rejeté les autres sources canoniques de l'islam. Le 2 novembre, la police avait arrêté 5 personnes dans un marché de Khartoum. Selon les enquêteurs, elles prêchaient aux gens de croire dans le Coran et de ne pas reconnaître les autres textes religieux, notamment la Sunna. Les autres personnes ont été arrêtées le lendemain pour les mêmes raisons. Leur procès pour apostasie a débuté dimanche devant le tribunal de Kalakla dans le sud de Khartoum. Si ces musulmans sont reconnus coupables, ils risquent la peine de mort en vertu de la charia, la loi islamique en vigueur au Soudan depuis 1983. Pour rappel, Meriam Yahya Ibrahim Ishaq, une jeune chrétienne du Soudan, avait refusé de renoncer à sa foi. Elle avait été accusée d'adultère et d'apostasie et condamnée à la peine capitale. La sentence avait soulevé un tollé mondial et elle avait pu finalement quitter Khartoum en juillet 2014.
Au Burkina Faso, concernant l'affaire relative au putsch manqué du 17 septembre, les avocats de Djibril Bassolé protestent contre la justice militaire burkinabé qui a exclu les avocats étrangers. L'ex-chef de la diplomatie de Blaise Compaoré est accusé d'être impliqué dans la tentative de putsch. Dans une déclaration conjointe transmise aujourd'hui à l'AFP, 6 avocats, dont 4 inscrits au barreau de Niamey, Paris, Lomé et Dakar, affirment que la décision d'irrecevabilité de la constitution d'avocats étrangers devant le tribunal militaire est sans précédent, car depuis qu'ont été nouées entre les pays d'Afrique francophone et la France des conventions bilatérales, jamais une décision n'avait été prise par un magistrat instructeur en violation de ces conventions, écrivent-ils.
La Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud a déclaré l'athlète handicapé Oscar Pistorius coupable de meurtre. Nathalie Barche.
En première instance, Oscar Pistorius avait été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire pour avoir tué en 2013 sa petite amie Riva Steenkamp de 4 coups de feu tirés à travers la porte des toilettes de sa maison à Pretoria dans la nuit de la Saint-Valentin. L'accusé coupable de meurtre ayant eu des intentions criminelles au moment des coups de feu, a déclaré le juge Eric Leach. Selon lui, indépendamment du fait que Pistorius pensait qu'il tirait sur un intrus ou savait qu'il s'agissait de sa petite amie, il savait forcément que son acte causerait la mort de la personne en question. L'identité de sa victime ne change en rien sa culpabilité, a-t-il dit. Le tribunal de première instance doit à présent réviser sa peine, qui peut théoriquement aller de 15 ans de prison à la perpétuité. Oscar Pistorius était sorti de prison en octobre, au bout d'un an de détention, et placé aux arrêts domiciliaires dans une somptueuse propriété de son oncle. Il est depuis soumis à des travaux d'intérêt général.
Au Nigeria, un garçon de 11 ans a été arrêté au motif qu'il serait un kamikaze potentiel de Boko Haram. D'après l'armée, le suspect venait de la ville de Bama et figurait parmi 4 enfants entraînés pour des attentats suicides par les terroristes. Le garçon a expliqué que les 3 autres avaient déjà accompli leur mission.
République démocratique du Congo, l'Action congolaise pour l'accès à la justice a exhorté les autorités à respecter la liberté de réunion et de manifestation à un an d'une présidentielle incertaine. L'ONG de défense des droits de l'homme répondait ainsi au procureur général de Kinshasa qui a averti tous ceux qui appellent la population à descendre dans la rue en invoquant l'article 64 de la Constitution qui sont passibles des peines prévues par la loi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il faut trouver des troupes syriennes et arabes pour affronter les djihadistes de l'État islamique. Déclaration du secrétaire d'État américain John Kerry ce jeudi lors de la conférence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à Belgrade, en Serbie.
I think we know it, that without the ability to find some ground forces...
Nous savons, à mon avis, que sans la capacité de trouver les troupes pour faire face à Daesh au sol, cette guerre ne sera pas gagnée totalement par des bombardements aériens, a dit M. Kerry. Ce rappel intervient quelques heures après l'entrée des Britanniques dans la campagne aérienne contre l'État islamique en Syrie. Le chef de la diplomatie américaine a discuté de la situation en Syrie avec son homologue russe Sergei Lavrov en marge de la réunion de l'OSCE.
Les ministres des Affaires étrangères russes, Sergueï Lavrov et turc, Mevlut Cavusoglu, se sont rencontrés aujourd'hui à Belgrade en marge de la réunion ministérielle de l'OSCE. C'était la première rencontre de haut niveau entre la Russie et la Turquie depuis la crise déclenchée par la destruction d'un avion militaire russe par l'armée turque. Rien n'a encore filtré de cet entretien qui a été confirmé sous couvert d'anonymat par un responsable du gouvernement turc. Moscou a déjà annoncé une série de sanctions contre Ankara, y compris la suspension de tous les vols charters, ce qui représente un coup dur pour l'industrie touristique en Turquie.
Un Palestinien a ouvert le feu ce jeudi sur un groupe de soldats israéliens et blessé 2 personnes en Cisjordanie occupée à la périphérie de Jérusalem avant d'être abattu par les forces israéliennes. C'est du moins ce que rapporte l'AFP citant une source militaire. C'est l'une des toutes premières fois depuis le début des violences déclenchées début octobre qu'un membre des forces de sécurité palestiniennes est impliqué dans un tel attentat. Les violences ont fait 104 morts palestiniens, dont un arabe israélien, 17 israéliens, ainsi qu'un américain et un érythréen, depuis le 1er octobre, selon un décompte de l'AFP.
Les services de sécurité israéliens ont annoncé aujourd'hui l'arrestation d'extrémistes juifs après un incendie criminel ayant décimé une famille palestinienne de Cisjordanie occupée et qui passe pour l'un des déclencheurs de la vague de violence actuelle. C'est la première fois que les services israéliens lient aussi clairement des arrestations et cet incendie fin juillet qui a profondément choqué les Palestiniens. Cette piste ne faisait de doute pour personne, affirme l'AFP, tout en signalant que des éléments concrets existent pouvant impliquer les suspects dans l'incendie. Leur nombre n'a pas été précisé.
6 mois après un premier coup de filet à la tête de la FIFA, 2 autres responsables du football mondial ont été interpellés jeudi à Zurich à la demande des États-Unis. John Linden.
Les responsables arrêtés sont 2 vice-présidents du comité exécutif de la FIFA, Juan Angel Napo du Paraguay et Alfredo Awid Banegas du Honduras.
Napoud préside la Confédération sud-américaine et Awit était le chef intérimaire de la Confédération d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes. Dans un communiqué, le ministère suisse de la Justice a fait savoir que ces quatre haut placés auraient été payés en échange de la vente de droits de diffusion de tournois en Amérique latine et de qualifications pour la Coupe du Monde. Ils auraient accepté des pots de vin de plusieurs millions. Pour l'heure, la justice suisse s'oppose à leur extradition vers les États-Unis. Le 27 mai, sept responsables du football mondial ont été inculpés par la justice américaine de corruption et blanchiment d'argent.
Le Honduras, la Birmanie, Haïti sont les trois pays à avoir été le plus affectés en 20 ans par des événements météorologiques extrêmes qui devraient se multiplier avec le réchauffement du globe en cours, indique aujourd'hui un rapport publié en marge de la conférence de l'ONU sur le climat. Au total, 525 000 personnes ont été tuées par environ 15 000 événements extrêmes, en particulier les ouragans, et les pertes s'élèvent à plus de 2 970 milliards de dollars entre 1995 et 2014.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Eric Manirakiza est avec nous en studio. Nous parlions tout à l'heure de l'interpellation de deux hauts responsables de la FIFA, le paraguayen Juan Ángel Napoute et le hondurien Alfredo Jawid Banegas. Alors, pour parler de foot, mais à un autre niveau, Eric, Manchester City attire les capitaux chinois.
Effectivement, c'est un moyen pour les entreprises chinoises, Gabi, de soigner leur image et leurs profits et surtout conforter l'ambition de Pékin de booster le football interne et des grands projets du président chinois Xi Jinping. Et Manchester City est la plus grosse offensive chinoise jusqu'à présent, 375 millions d'euros des actions nouvellement émises, soit 13%.
Alors, que se passe-t-il avec Emmanuel Adebayor ?
Ah oui, Adebayor, c'est un club. L'attaquant togolais attend le mercato hivernal pour trouver un nouveau club. Mais déjà, Chelsea et Watford s'intéressent à l'épervier. Adebayor n'est pas chômeur pour autant. Gabi perçoit quand même 140 000 euros chaque semaine de Tottenham jusqu'à la fin de son contrat.
CECAFA Cup 2015, nous sommes en Afrique, le Rwanda en finale.
Oui, les Amavubi, c'est comme cela qu'on appelle l'équipe nationale du Rwanda. Les Abeilles en français ont piqué le Soudan dans les tirs au but 4-2 pour arracher leur ticket. Ils devront croiser le fer avec le vainqueur du match entre l'Éthiopie et l'Ouganda qui s'affrontent aujourd'hui.
Mondial des clubs, le tout-puissant Mazembe vise le toit du monde à Osaka.
Rien n'est impossible, Gabi, le tout-puissant vit cet espoir et la compétition débute le 13 décembre au Japon à Osaka. Mais la tâche ne sera pas facile. Les hommes de Katumbi devront vaincre deux clubs, dont River Plate de l'Argentine, pour jouer la finale.
NBA, basket, le joueur et le chiffre du jour.
C'est très impressionnant. Stephen Curry, c'est le joueur du jour. Le meneur de Golden State a encore livré une prestation surréaliste, Gabi, contre les Hornets. Victoire 116-99. Il a inscrit 40 points. C'est le premier chiffre du c'est ça qui rime avec le
oui,
joueur
bien
Curry.
Sûr, ouais.
Et enfin, le chiffre du jour 20, la saison parfaite de Golden State, le champion NBA en titre, a égalé le meilleur début de saison jamais réalisé, Gabi, par une équipe d'un sport professionnel nord-américain.
Merci, Eric Manirakiza.
L'actualité économique avec Anastasie Tudiech.
En Côte d'Ivoire, d'ici septembre 2016, Ashok Leyland, l'un des principaux constructeurs automobiles indiens, devrait livrer 3000 véhicules et créer des centres de pièces de rechange ainsi que des ateliers de réparation en Côte d'Ivoire. Montant de l'opération, 200 millions de dollars. La banque qui va financer la transaction est elle aussi indienne. Il s'agit de l'Exim Bank of India. En Afrique du Sud, les associations de protection de la nature veulent profiter du Forum de coopération Chine-Afrique, le FOCAC, qui se tient vendredi et samedi à Johannesburg, pour attirer l'attention des décideurs sur le trafic des défenses d'éléphants d'Afrique. Pour les militants, le développement est indissociable de la protection des ressources naturelles. Au début du XXe siècle, le continent comptait 20 millions d'éléphants en liberté. Il n'en reste plus que 470 000.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Morgane Guériec et Chérubin Dorsil dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Burkina Faso.
Les élections législatives et présidentielles du week-end dernier se sont bien déroulées. En revanche, concernant les législatives, le nombre de bulletins nuls est très élevé. De Ouagadougou, le reportage de Zoumana Ouenogo.
Si tous les observateurs s'accordent à saluer la tenue des élections couplées au Burkina avec un happy end, il est à noter aussi que le nombre très élevé de bulletins nuls, 157 543 sur 3 millions de votants, pose la question de la maîtrise du vote par les populations. Suivons des avis.
Franchement, tu ne sais même pas qui tu vas voter. Bulletin nul, c'est gourou. Donc, tu te prends la fête, tu ne sais même pas qui tu vas voter. Il y a beaucoup de dessins. Franchement, ça mélange les choses. Quoi.
Le bulletin est trop grand. Pour pouvoir plier, ça peut m'attraper. Même directement. Ça dépasse plus qu'un journal. Ça cause beaucoup de problèmes. Surtout, nous autres, n'ont pas fait l'école, là, c'est un peu difficile avec nous. À l'ancien temps, l'ancien bulletin, c'était les petits-petits, là. Chaque parti a son bulletin, tu choisis celui que tu veux, c'est facile même.
Alors, les partis politiques n'ont-ils pas failli à leur mission d'éducation citoyenne? C'est la question posée à Adama Kanazoé, le plus jeune des candidats à la présidentielle. On écoute Adama Kanazoé, le président de l'AGIR, Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République.
Ça veut dire que le travail qu'on a fait n'est pas suffisant et que prochainement, il va falloir faire mieux. Il y a d'une part la nature même de ce scrutin-là, qui était quand même un scrutin couplé, présidentiel et législatif. C'est pas des choses, c'est vrai qu'on a eu l'expérience des municipales et des législatives récemment, mais c'est un peu différent. Et ça a clairement impacté parce que c'est très compliqué pour les uns et les autres de maîtriser ça. En même temps aussi, il y a eu un manque de, à mon sens, hein, de sensibilisation approfondie sur les méthodes donc, de votation. Il lui fallut également, en plus donc, de mettre en place des balises pour éviter les situations de fraude et tout ça, où on a beaucoup focalisé, il lui fallut également que nous pensions effectivement à sensibiliser les populations sur les méthodes de vote, et à l'apprentissage du vote et surtout le respecter bien.
Zoumana Ouenogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, Roch Kaboré, élu dès le premier tour au Burkina Faso. Après une élection historique qui s'est déroulée dans le calme, l'avenir s'annonce-t-il plus apaisé? La grand-messe mondiale sur le climat, la France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement. Déclaration et négociation, est-ce suffisant pour garantir l'avenir de notre planète? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Un rendez-vous avec Tatiana Mosso. 170 Maliens ont été rapatriés de la Libye à cause de la crise que traverse ce pays. Arrivés à Bamako, ils ont été accueillis par les services de la protection civile. Ce rapatriement a été facilité grâce à l'appui de l'Organisation internationale pour la migration et le gouvernement malien.
Parmi les 170 personnes rapatriées de la Libye, il y a 7 femmes et 21 enfants. Certains ont abandonné l'école il y a 3 mois, comme nous l'explique ce jeune garçon.
Je m'appelle Mohamed Aboubakar Koulibaly. J'ai 11 ans. J'étudie là-bas. J'étais à SM1. C'est bon un peu. Non, c'est pas tous les Libyens. Il y en a des autres qui n'ont pas bon trop.
Les hommes sont les plus nombreux. Ils se réjouissent d'être au Mali, car la Libye est devenue une jungle pour eux.
Je m'appelle Arouna Fani. Nous avons quitté la Libye. Tripoli, jusqu'à ici, parce qu'on a beaucoup de problèmes là-bas. Même moi aussi, j'étais prison en Libye. J'étais prison deux fois. Libye, actuellement, vraiment, c'est pas facile. Il y a beaucoup de Maliens là-bas qui veulent venir ici. Il faut faire tous les moyens pour venir ici. À cause de cette problème-là, que j'ai venu ici, je remercie tous les Maliens. Nous ne sommes pas refaits parce que nous avons demandé même à l'ambassadeur. L'ambassadeur m'a demandé que si tu veux aller au Mali, faut venir ici prendre l'espace pour aller au Mali. Nous sommes demandé même volontairement venir dans notre pays.
Chaka Doubia a tout perdu en Libye. Il travaille et gagne beaucoup d'argent. Mais avec la situation d'insécurité, il a préféré revenir au Mali. Il y a de l'argent en Libye, mais c'était comme si on travaillait pour les groupes armés. Tout ce qu'on gagnait, ils venaient nous récupérer. Avec des coups de fusil, à peine on dormait. La situation était terrible. Mieux vaut voir que d'entendre, parce que nous avons échappé à la mort. Pour les jeunes fanés, la Libye n'est plus une bonne destination, car chaque jour constitue pour eux son lot de tristesse et de malheur. Ils demandent aux jeunes Maliens de ne plus se rendre en Libye.
Aux autorités maliennes, je voulais dire que si vous pouvez arrêter cette enfant en Libye, il faut arrêter. Parce que Libye n'est pas bon. Si tu es dans Libye, tu ne peux pas trouver l'argent. Tu ne peux pas trouver rien. Tu es là-bas. Toujours, tu es dans problème. Même tu es dans la maison. Personne qui va t'attaquer dans la maison. Tu ne peux pas aller, même lieu de travail. C'est tous ces problèmes. Donc on est fatigué là-bas. Très, très fatigué, vraiment. Je vais lancer tous les Maliens.
Les 177 rapatriés ont été accueillis par les services de la protection civile et le développement social.
C'est Mme Goïta Standard Adjoukouré, directrice régionale du développement social. Toujours venue accueillir nos parents qui étaient à Libye. Mais cette fois-ci, c'est volontaire. Vu l'insécurité qui existe dans le pays, les Maliens ont décidé, certains ont décidé de revenir dans le pays. Donc il s'agit de les réinsérer. Il s'agit déjà de les répertorier, de voir qui ils sont, bon, quels sont, qu'est-ce qu'ils faisaient là. Faire un suivi, essayer de les orienter vraiment. On les a accueillis, on les a donné à manger. Ils ont été vaccinés.
Ces 177 Maliens ont regagné le pays grâce à un partenariat entre le gouvernement malien et l'Organisation mondiale des migrants. Un autre convoi de volontaires est en cours de préparation en Libye. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le premier sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique s'ouvre ce vendredi à Johannesburg en Afrique du Sud, où devront prendre part plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains. La sixième réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique a été élevée au rang de sommet à l'issue d'une rencontre entre le président sud-africain Jacob Zuma et son homologue chinois Xi Jinping à Pékin en septembre dernier. La Chine étant devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique devant les États-Unis et l'Union européenne, et les échanges sino-africains augmentant rapidement, ce forum est de plus en plus considéré comme plus important que les sommets France-Afrique. Nicolas Pinault a joint pour une analyse David Zoumenou-Dossou de l'Institut des études de sécurité de Pretoria.
Les Africains sont à la recherche de nouvelles ressources pour faire face aux défis de développement socio-économique de leur pays. Et surtout à l'heure où l'Europe semble s'essouffler et n'arrive plus pratiquement à répondre à toutes les demandes, à toutes les sollicitations des États africains. Donc ça s'inscrit, s'il faut le préciser, dans le cadre d'une décentralisation des politiques étrangères des États de l'Afrique, de l'Afrique en général. Et particulièrement pour l'Afrique du Sud, je pense que ce sommet vient renforcer, en tout cas, la ligne de la politique étrangère de l'Afrique du Sud, de se pencher beaucoup plus sur l'Asie dans sa stratégie de développement pour les 50 prochaines années.
La baisse de 40% des investissements chinois à l'étranger inquiète-t-elle en Afrique du Sud?
C'est un sujet de préoccupation, mais quand on voit également de l'autre côté le volume de commerce entre l'Afrique du Sud et la Chine, et également les investissements qui vont être faits, je pense qu'il n'y a pas vraiment un lieu de s'alarmer ou de s'inquiéter. D'ailleurs, l'Afrique du Sud vient de signer en fait 26 accords avec la Chine, des accords stratégiques qui vont voir la Chine investir environ 96 milliards de dollars dans l'économie sud-africaine. La Chine a toujours été un partenaire très important au plan politique, au plan stratégique et au plan économique pour l'Afrique du Sud. Et je pense que toute la stratégie économique de la diplomatie économique de l'Afrique du Sud s'appuie sur la Chine. Et un autre élément qu'il faut mettre en exergue, c'est la décision de la Chine de mettre 500 millions de dollars à la disposition d'ESCOM, qui est la compagnie d'approvisionnement d'électricité. On sait que l'Afrique du Sud fait face à une pénurie d'électricité et cette contribution va permettre à cette institution de régler les problèmes techniques auxquels elle fait face.
Est-ce que le géant chinois peut résoudre tous les problèmes électriques en Afrique du Sud?
Il est difficile de dire, de mettre tout l'espoir sur le géant chinois. Je pense que la Chine n'est qu'un acteur dans la panoplie d'acteurs dont l'Afrique a besoin pour régler les problèmes d'électricité. Mais en tout état de cause, la décision et la stratégie devraient être inspirées et gérées par les Africains eux-mêmes, car si les décideurs politiques ou les dirigeants ne prennent pas l'initiative, quel que soit l'apport de la Chine, je pense qu'on restera toujours avec ce problème de pénurie qui va va d'ailleurs affecter le rêve d'industrialisation de l'Afrique dont parle l'agenda de l'Union africaine, l'agenda 2063, où les 10 premières années seraient consacrées à l'industrialisation, donc au règlement de la question de l'électricité.
David Zunmenu Dossou de l'Institut des études de sécurité de Pretoria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Autre dossier ce soir, de nombreux experts de l'Organisation mondiale de la santé sont réunis depuis hier à Niamey au Niger. L'OMS, pour l'occasion, a mis en garde contre les épidémies de méningite en Afrique en 2016. Le Niger et le Nigeria, déjà durement frappés par cette maladie, sont particulièrement concernés. Selon l'OMS, la ceinture de la méningite s'étend du Sénégal en Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Éthiopie en Afrique de l'Est. John Lyndon a joint à Niamey le docteur Pana Asimawe, représentant résident de l'OMS au Niger.
Les experts sont réunis pour les trois jours pour réfléchir sur les préparations pour l'année prochaine. Et notamment, il s'agira de pouvoir voir les vases de moyens pour renforcer la surveillance épidémiologique pour une détection rapide des cas. Deuxièmement, de discuter de protocoles pour le traitement efficace que l'OMS a disséminé il n'y a pas longtemps. Troisièmement, il s'agit de discuter également de la possibilité et des disponibilités que nous avons pour pouvoir prévenir par la vaccination l'immunité au niveau des communautés qui sont à risque, mais surtout également renforcer la communication pour ne pas créer la panique lorsque les épidémies surviennent.
Alors, le Niger et le Nigeria sont cités comme étant des pays à haut risque. C'est quoi leur particularité?
La particularité vient du fait que depuis 2010, on a vacciné contre le sérotype A, c'est-à-dire la souche A qui créait d'énormes épidémies avec un nombre élevé de décès. Depuis 2010, on a vacciné et donc on n'a plus vu cette souche A créer des épidémies dans la ceinture. Mais depuis 2014 et l'année dernière, on a vu une nouvelle souche C qui, elle, n'était pas à la cause des épidémies passées, qui s'est réveillé d'une façon brusque et a causé justement des épidémies au Nigeria et au Niger en 2015. C'est pour cela que les experts sont en train de se réunir pour voir dans quelle mesure les mesures préventives peuvent être prises au niveau des différents pays, étant entendu que pour le moment, les vaccins qui doivent être disponibles contre cette souche-là sont très, très, très limités au niveau mondial.
Alors, on a parlé aussi ces dernières années de vaccins contre la méningite. Sont-ils assez efficaces ou simplement c'est la sensibilisation des populations qui n'est pas bien faite?
Comme je venais de le dire, la vaccination contre la souche A a démontré que cette vaccination a été très efficace au niveau de l'immunisation des communautés. Par contre, la souche C, au niveau du Niger et du Nigeria, n'a pas actuellement pu permettre de disposer des vaccins insuffisants, surtout ce que nous appelons les vaccins conjugués, qui coûtent très cher, pour faire des vaccinations de masse, afin que nous puissions avoir les mêmes résultats que la vaccination qui concernait le sérotype A.
Le docteur Pana Asimawe, représentant résident de l'OMS au Niger.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Michel Joseph, présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur voaafrique.com.
Vous
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.